Le 7h23 de Matin sur Première.
L'œil international de Pierre Marlet. Bonjour Pierre.
Bonjour François.
Et on va évidemment parler avec vous de ce qui fait l'événement mondial de cette semaine, l'élection présidentielle américaine, bien sûr. On va revenir sur quelque chose dont on parle souvent sans toujours bien le comprendre, Pierre. C'est le mode de scrutin aux États-Unis qui est décidément très particulier.
Et François, pour le comprendre, commençons par revenir 4 ans en arrière. 8 novembre 2016, Donald Trump crée la stupeur en devenant le 44e président des États-Unis. Il obtient 304 grands électeurs contre 227 à Hillary Clinton. Alors, dit comme ça, la victoire paraît sans appel. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'en nombre de voix sur l'ensemble des États-Unis, c'est très différent. 65 853 000 voix à Hillary Clinton, 62 984 000 à Donald Trump. Autrement dit, Clinton avait 2 869 000 voix de plus que Trump. Ce qui veut dire que si le scrutin présidentiel américain fonctionnait comme le scrutin présidentiel français, c'est Hillary Clinton qui l'aurait emporté.
Oui, alors quand on essaie de comprendre la spécificité du scrutin américain, on évoque souvent ces fameux grands électeurs. C'est ce qui explique pourquoi Trump a gagné alors qu'il avait près de 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton ?
Pas vraiment en fait, mais l'existence de ces grands électeurs est assez perturbante dans une démocratie moderne, car en fait, contrairement à la présidentielle française, il faut comprendre que la présidentielle américaine est en fait une élection à suffrage indirect. Ce mardi, les Américains ne votent pas pour Trump ou Biden, ils votent pour quelqu'un qui s'est engagé à soutenir l'un ou l'autre. Ce qui signifie que c'est une question de loyauté. Si jamais une fois élus, ces grands électeurs changeaient d'avis quand ils se réunissent, ils seraient déloyaux. En théorie, c'est possible, c'est d'ailleurs déjà arrivé, mais pour cela, il faut remonter au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est impensable. N'empêche, l'existence de ces grands électeurs rend les choses plus complexes, mais personne n'a jamais pu ou voulu modifier ce mode de scrutin qui remonte à la naissance des États-Unis au moment où différents États ont choisi de s'associer tout en conservant leur spécificité.
Ouais, donc ce ne sont pas les grands électeurs qui expliquent comment on peut perdre une élection en ayant le plus grand nombre de voix, mais alors quelle est la clé de l'énigme, Pierre ?
C'est en fait la combinaison de deux principes. Voici le premier, énoncé dans un tube d'il y a 40 ans. Nothing more to say, no more race to play, the winner takes it all. Et voilà François, vous avez entendu, the winner takes it all, le gagnant prend tout. Ah bah, bien sûr, le gagnant prend tout et le perdant n'a que ses larmes pour pleurer. Dans la présidentielle américaine, celui qui gagne dans un État, même si c'est à 50,1% contre 49,9%, remporte tous les sièges de l'État en question. C'est le principe du scrutin majoritaire qui existe aussi, par exemple, dans les législatives au Royaume-Uni. Et donc, tous ceux qui ont voté pour les perdants ne désignent aucun grand électeur.
Donc, premier principe, le vainqueur prend tout. Quel est donc le second principe qui se combine au premier ?
Le fait que tous les États ne pèsent pas de la même façon. Pour me faire comprendre, je vais prendre les deux extrêmes. D'un côté, la Californie, 55 grands électeurs. De l'autre, le Wyoming, 3 grands électeurs. Vous dites au départ, bah, pauvre Wyoming, il ne pèse pas lourd face aux Californiens. Eh bien, en réalité, c'est l'inverse. Démonstration, la Californie, c'est plus de 39 millions d'habitants. Et avec 55 et les grands électeurs, cela fait, je sors ma calculette, un grand électeur pour 718 000 Californien. Le Wyoming, lui, il est peuplé seulement de 570 000 personnes. Alors, avec 3 grands électeurs, cela fait un grand électeur pour 190 000 habitants. Pour le dire autrement, un électeur américain du Wyoming pèse à la présidentielle américaine 3,77 fois plus qu'un électeur californien. Et cela, parce que la répartition des grands électeurs se fait en faveur des États les moins peuplés. La combinaison de ces deux principes, « the winner takes it all », et une représentation différente par État explique pourquoi on peut avoir plus de voix sur l'ensemble des États-Unis et tout de même perdre l'élection.
Bon, on a bien compris. Dernière chose, Pierre, parce qu'on en parle beaucoup et vous allez nous rappeler aussi ce que c'est, ces fameux swing states, ces États qui balancent d'une élection à l'autre au gré des élections présidentielles.
Eh bien oui, le swing, ça balance, François. Et oui. Donc, comme la Floride, c'est là, rappelez-vous, que s'est jouée la présidentielle de 2000. Le scrutin, à l'époque, est hyper serré. Et ce sont donc les 29 grands électeurs de Floride qui vont faire pencher la balance. Or, George W. Bush remporte la Floride contre Al Gore pour 1784 voix, soit moins de 0,5% des votants. Après un recomptage, l'écart s'est réduit même à 327 voix. Vous imaginez, on frôle la crise constitutionnelle. Mais le candidat démocrate Al Gore choisit de ne pas en rajouter et reconnaît sa défaite. Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui, dans une telle situation, Donald Trump en fasse autant. Rappelons qu'il y a 4 ans, Donald Trump a remporté la présidentielle parce qu'il a gagné non seulement en Floride, donc qui oscille fréquemment d'un camp dans l'autre, un de ces fameux swing states, mais aussi dans des États qui votaient démocrate depuis 25 ans, comme le Michigan, le Wisconsin ou la Pennsylvanie qu'on vient d'évoquer. Autant dire que ces États-là seront donc très surveillés, ainsi que d'autres États traditionnellement républicains comme le Texas ou la Géorgie, que Joe Biden rêve d'emporter. En tout cas, on l'a compris, comme à Hollywood, le suspense, il est réel.
Ouais, donc Floride, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Caroline du Nord aussi, Texas, Géorgie, voilà, hein, les États qu'il faudra particulièrement surveiller dans la nuit de mardi à mercredi pour se faire une idée du nom du vainqueur.
Pour autant qu'on ait les résultats, car vous le savez, on se demande si on verra clair mercredi matin.
Effectivement, rendez-vous dans 48 heures. Donc merci beaucoup Pierre Marlet pour ce rappel bien utile du fonctionnement du système électoral américain. On aura bien besoin pour comprendre ce qui se traite.